je vous parle de derrière le pilier. Donc nous avons une table ronde ce matin dont la thématique est réalité augmentée, lecture interactive, diffusion numérique, point de suspension, le livre de demain, point d'interrogation. Donc on va essayer d'explorer ces différents termes, voir un peu les implications qu'ils ont pour les auteurs, pour le milieu du livre. Et pour discuter de ce thème, donc nous avons Jean-Claude Dugnac, qui récemment a sorti L'instinct du troll, et puis qui vient de faire paraître L'enfer du troll, qui est sorti ces jours-ci, aux éditions La Talente. Vraiment quelque chose de truculent, avec un troll dans le monde des bureaux, etc. Donc vraiment, si vous n'avez pas lu, je vous conseille, c'est incontournable. Jean-Claude a également animé aux Imaginales un atelier fabriquer son livre numérique, et il a aussi diffusé sur Internet de la documentation là-dessus. Lionel Davoust, qui a également une large production et qui vient de faire paraître aux éditions critiques La Messagère du Ciel, également hautement recommandable, et qui est donc le premier tome d'une trilogie, peut-être quadrilogie. Assez volumineux, donc vu que l'univers se développe, on sait qu'il va y avoir beaucoup de choses derrière, et qui également a des connexions avec le domaine du jeu vidéo, et qui pourra aussi nous parler du coup de l'interactivité et toutes ces choses-là à travers le livre et le jeu vidéo. Alors, deux invités qui pour l'instant ne sont pas encore arrivés, normalement ils sont prévenus, donc ils sont peut-être en route, on ne sait pas, mais Olivier Portejoie, qui est aux éditions 1000 saisons, et qui, notamment, ces éditions ont la particularité de faire ce qu'ils appellent des anthologies augmentées ou anthologies interactives. Et l'anthologie Tomber les voiles, qui va paraître en 2018, justement, tout le matériel va être choisi par les lecteurs. Enfin, bon, s'il arrive, il va pouvoir nous expliquer tout ça. Et Jean-Charles Fitoussi, qui a produit une web application, qui s'intitule Le premier chapitre, et qui permet en fait au lecteur de pouvoir parcourir les premiers chapitres des livres. Donc s'il arrive, il va aussi pouvoir nous en parler. Alors, pour commencer le débat, déjà j'aimerais bien qu'on puisse un petit peu définir les termes, parce que le public ne sait peut-être pas. Donc réalité augmentée, lecture interactive, diffusion numérique, en quoi ça consiste? Alors, Lionel, tu commences?
Alors, déjà, très rapidement, puisqu'on parle beaucoup de réalité quelque chose en ce moment, réalité virtuelle et réalité augmentée, c'est deux approches qui sont voisines, mais qui sont extrêmement différentes l'une de l'autre. La réalité virtuelle, c'est le cliché que vous imaginez de la science-fiction des années 80, on a dans genre le cobaye ou ce genre de choses, on a un casque sur les yeux, on est totalement coupé du monde extérieur, et à travers des capteurs qui retranscrivent le mouvement de la tête, je simplifie beaucoup, vous avez peut-être éventuellement des manettes qui retranscrivent vos mains dans l'univers virtuel, vous êtes projeté dans un monde entièrement différent. La réalité augmentée, c'est quelque chose de beaucoup plus proche et beaucoup plus ouvert sur l'extérieur. Si vous avez peut-être entendu parler de Pokémon Go, peut-être pas, bon. Dans Pokémon Go, vous avez des séances ou des séquences de jeu où vous avez votre téléphone pour pouvoir capturer le Pokémon. En fait, le Pokémon apparaît dans l'univers qui vous entoure. Je prends mon téléphone, je vise la chaise qui est là, et peut-être le Pokémon il est sur la chaise. Mais tout ce qui se passe, c'est que mon terminal capte ce qui se passe autour avec son appareil photo, sa caméra, et en fait incruste des éléments virtuels, mais dans le monde qui est entièrement réel. C'est la réalité augmentée. Donc ça, on est un peu au balbutiement, on est avec beaucoup d'expérimentation sur ces trucs-là, et il y a une peut-être potentielle nouvelle grammaire narrative, nouvelle façon d'interagir avec le monde, qui serait peut-être en train de se développer. En tout cas, il y a pas mal de recherches là-dessus. Jean-Claude, tu veux faire le livre augmenté ou...
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Lionel, sur ce point-là, excusez-moi, un peu sur le fourre-tout que je constitue ce titre de ce machin. D'abord, parce que c'est pas le livre du futur, c'est le livre du présent, on est déjà dedans. Hein. Je signale les livres numériques, ça a bien plus de 10 ans. La réalité augmentée dans mon usine, j'en fais depuis 2005, et puis etc. Puis il y a des jeux de vidéo avec des casques depuis déjà pas mal un certain temps. Il faut quand même oublier une chose, la lecture, pour qu'on parle de lecture, il faut que ce soit des mots. Si vous faites une adaptation vidéo, un jeu vidéo, etc., c'est plus un livre. c'est un jeu vidéo, c'est un film, c'est tout ce que vous voulez, c'est plus un bouquin. Un bouquin, c'est l'acte de lire des mots dans un certain sens pour en faire des images dans sa tête, c'est ça. Donc qu'on le fasse augmenter, virtuel, etc., on reste aux fondamentaux. Si on rajoute quoi que ce soit à ce phénomène des mots, etc., avec, à part quelques images, c'est pas là, si vous transformez tout ça, c'est plus un livre. C'est autre chose. On parle d'adaptation.
Je suis entièrement d'accord avec toi. C'était juste pour placer l'état, mais je suis entièrement d'accord avec toi, et je pense qu'il y a énormément d'enthousiasme, peut-être un peu déraisonnable autour de cette nouvelle techno, comme quoi ça va révolutionner le livre, etc. Je suis entièrement d'accord avec toi.
Ça peut le révolutionner, mais à ce moment-là, il ne faut pas fonctionner en adaptation, il faut fonctionner en transformation des mots. Or ça existe aussi déjà. J'ai des petits camarades à Toulouse qui s'appellent Via Fabula, vous avez dû en entendre parler, enfin, ils sont sur le net, ça commence à bien marcher, qui ont tout simplement développé des techniques qui font que le livre numérique que vous lisez sur votre liseur, votre tablette, se transforme en fonction de l'endroit où vous êtes, de la personne que vous êtes, du temps qu'il fait, de tout un tas de choses, et vous amène dans des embranchements du livre auxquels vous n'auriez pas nécessairement accès si vous vous étiez trouvé à un autre moment ou si vous étiez une autre personne. Voilà. Ça, c'est possible. Encore une fois, ce que vous lisez à l'écran, ce sont des mots. C'est juste que les mots changent avec vous. Et ça veut dire aussi qu'au lieu d'avoir un livre figé qui est le même pour tout le monde, ce que le progrès, le numérique, etc. est susceptible d'amener, c'est un livre qui s'adapte à vous. Et un livre qui s'adapte à vous, qui s'adapte éventuellement à votre pathologie. Si vous avez un gamin qui est dyslexique ou qui a du mal à lire ou qui a une forme d'autiste ou d'autisme ou une autre, ou simplement qui n'a pas envie de lire, parce qu'il y en a plein et c'est un des problèmes, vous pouvez avoir un livre qui va lui dire « Moi, je vais te parler parce que moi, je vais te parler de toi. Et je vais vraiment être avec toi. Donc, tu vas être beaucoup plus que les autres livres impliqués dans mon truc. » Et ça, c'est une façon, moi, je l'ai constaté, de faire lire certains gamins réfractaires à la lecture. Mais on est encore une fois dans la transformation d'une chaîne de mots par une autre chaîne de mots.
Alors, ce que tu viens de dire, ce genre de livre qui s'adapte pour l'auteur, l'auteur ne peut pas écrire de façon classique avec juste une trame narrative. Comment ça se passe pour écrire un objet de ce genre-là? Est-ce que du coup, il faut que l'auteur il ait envisagé toutes les possibilités? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui génère du texte? Ou comment ça se passe?
Alors, les deux, mon capitaine, c'est une bonne question. La première, c'est qu'effectivement, il faut avoir développé plusieurs branches narratives. Il n'y a pas qu'une seule fin, ou il peut y avoir une seule fin, mais il peut y avoir plusieurs façons d'arriver à la même fin.
D'accord.
Je donne l'exemple bête, mais il pleut, vous amenez votre petite copine au cinéma, il fait beau, vous l'amenez se promener au bord des quais. Vous voyez, c'est des trucs idiots, mais à ce moment-là, vous arrivez en principe à la scène du premier baiser, et si vous n'êtes pas trop imbécile, à la fin du chapitre, mais vous ne l'avez pas fait de la même façon.
D'accord.
Ça, c'est un type d'approche, mais ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Imaginez un crime dans lequel le coupable changera avec le temps qu'il aura fait au moment du meurtre. Voire même le fait que vous vous retrouverez vous-même dans la rue où le crime a eu lieu, et presque vous lèveriez la tête pour éviter que le cadavre vous tombe dessus s'il a été précipité du 7e étage. Ça veut dire que l'auteur prévoit différentes trames narratives. C'est une façon de travailler qui est différente et qui est très intéressante. Et vous avez aussi une partie du programme, une partie d'intelligence artificielle, qui prend des mots-clés du livre et les remplace par le mot-clé adapté à l'instant où vous trouvez. Vous ne dites pas « il fait beau », vous dites « il fait » entre parenthèses « temps », et à ce moment-là, ça prend le mot-clé « temps » et vous dites « il pleut, il fait beau, il y a un petit crachat, un petit brouillard, on est dans le brouillard, donc on ne voit rien », et à ce moment-là, en fonction de ça, on choisit la trame narrative qui revient. Donc on est à la fois, nous, auteurs, obligés d'imaginer diverses possibilités, mais en même temps, on est aidé par une intelligence artificielle qui va choisir ces possibilités, voire les adapter, voire les enrichir pour nous. Donc le résultat n'est jamais tout à fait prévisible. Et ça, quelque part, je trouve ça très excitant. En même temps, il y a des auteurs qui vous disent « Moi, je ne veux absolument pas participer dans ce truc-là parce que l'histoire, c'est la mienne, je veux qu'elle soit exactement comme je suis. Bon. » Moi, je suis différent, j'aime bien l'idée que les choses vont m'échapper. Moi, je suis un vieux con.
Ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est que les chiffres m'ont donné raison l'année dernière. Je pense que c'est une expérience hyper intéressante. J'avais discuté, d'ailleurs, on avait beaucoup discuté avec Bruno Marchesson, on parlait et j'avais posté, du coup, avec son accord, évidemment, les résultats de nos discussions sur mon site, donc ils sont à l'accès libre, où justement on discute de ces trucs-là. Je pense que une des qualités principales de la lecture, je ne parle pas de justement, parce que j'aime beaucoup ce que tu disais, Jean-Claude, sur le fait que ça permet d'amener des gamins à la lecture, parce que ça renforce la valeur d'identification. Mais si on se place hors de ce cadre-là. Je suis profondément convaincu que par le fait qu'un lecteur, quand il lit un livre, justement, c'est pour avoir une vision proposée par un auteur qui est peut-être effectivement à sens unique, parce que c'est l'expérience de la narration et de la lecture. Et ce qui est intéressant, quand on regarde ce que les gens demandent dans le jeu vidéo qui est censé être, en tout cas dans l'esprit de beaucoup de monde, le domaine de l'interactivité, de la liberté totale, on se rend compte que quand on interroge les joueurs sur ce qu'ils cherchent, il y a à peu près deux types de réponses. Le premier, c'est je cherche un bac à sable total, où effectivement, on me donne les briques, et j'invente totalement l'archétype, c'est Minecraft. On me donne la boîte de Lego, et j'invente totalement le truc de A à Z. Ça, c'est un type de jeu particulier. Mais si on me donne un jeu où il y a une histoire, donc éventuellement avec un monde ouvert, un type Assassin's Creed, un type Dishonored, ce genre de jeu, Skyrim, tout à fait, les Elder Scrolls, etc., il y a une attente des joueurs et une demande des joueurs sur une narration forte, en fait. C'est-à-dire, non pas vas-y, fais ce que tu veux et construis ta propre histoire, mais ça, c'est un type de jeu entièrement différent, et même d'ailleurs, c'est un type de gameplay différent, donc ils sont vraiment des bagages à la petite Minecraft, justement, qui est l'archétype. Mais au contraire, je veux que tu me racontes une histoire, peut-être avec des points d'eau, des embranchements, mais je veux un parti pris fort. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, que bien qu'on soit dans un média interactif, vraiment fondé, sa pierre angulaire, cette interactivité, les joueurs demandent un univers avec une base forte, avec demandent quelque chose, avec vraiment des parties pris narratifs. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, parce que ça renforce pour moi, alors là c'est vraiment extrêmement personnel, mais pour moi l'intérêt de la fiction c'est justement d'entrer dans quelque chose qui est différent. Et il y a quelque chose en moi, et je reconnais, c'est pour ça que je dis en disant en plus que je suis un vieux con, il y a quelque chose en moi qui a du mal avec l'idée d'avoir un bouquin qui va s'adapter à mon environnement. Je veux pas justement, et les joueurs ont l'air d'être dans le même état d'esprit, je veux pas qu'on s'adapte à ce qui peut éventuellement se trouver autour. Je veux justement qu'on me provoque, qu'on me donne un parti pris, qu'on me donne à réfléchir, et qu'on aille justement me montrer quelque chose qui est différent, parce que c'est pour ça, quelque part, que je vais lire l'histoire.
Alors, on parle du livre numérique, mais il faudrait un petit peu définir ce que c'est et quelle est la différence finalement entre le livre papier et le livre numérique, et puis comment ça se fabrique. Alors, je sais que Jean-Claude a diffusé... moi, j'ai trouvé deux documents très, très intéressants que tu avais mis en ligne à une époque...
Qui sont toujours.
Un jour régulièrement. Voilà, absolument. Et qui sont vraiment des mines d'or.
Mais tu vois, on parle d'un truc qui a 10 ans, encore une fois. Et c'est tout simple. Un livre numérique, un livre papier, qu'est-ce que c'est des lignes sur un truc. Un livre numérique, qu'est-ce que c'est? C'est les mêmes lignes en digital. C'est tout bête. Un livre numérique, si vous regardez comment c'est fait à l'intérieur, c'est un site web, tout simplement. C'est où vous démarrez à la page de titre, puis ensuite vous passez aux différents chapitres qui sont des pages web différentes. Et vous avez ce qu'on appelle une table CSS, qui est la table qui vous indique les styles de vos chapitres. Ouais, c'est bête comme chou, hein, c'est vraiment rien de compliqué. C'est normalisé, c'est standardisé. Vous avez une version universelle format ouvert qui est l'EPUB. Vous avez une version à peu près universelle aussi, qui est celle d'Amazon, qui s'appelle le Mobi ou la RCM, ce que vous voulez. Et on passe de l'un à l'autre immédiatement avec des outils du marché, c'est très simple. Et vous avez la liseuse, qui est une technologie. Par contre, la liseuse est une technologie intéressante. Ce n'est pas une technologie éclairée, ce n'est pas un écran d'ordinateur ou un écran de tablette. C'est un papier électronique, c'est-à-dire que c'est un champ électronique dans lequel vous avez des petites billes qui sont blanches d'un côté et noires de l'autre. Et à chaque fois, vous avez une grille qui dit « toi, tu deviens noir, toi, tu deviens blanc » et ça fait apparaître les lettres. D'accord ? Mais ce n'est pas éclairé. Donc, ça n'est absolument pas fatigant et ça se lit exactement comme un bouquin. Bon, et l'avantage étant que pour le poids d'un bouquin de poche et le volume d'un bouquin de poche, vous travaillez 1000, 1500, 2000 bouquins. Ça, c'est très bien. Surtout quand on voyage, croyez-moi, la personne que je suis, je trouve ça formidable. Mais c'est tout. Il n'y a pas, il y a aucun changement sur le texte lui-même, il n'y a aucun changement sur le truc. En plus, on vous disait, oui, on pourra faire de l'interactivité, on pourra cliquer là et sortir du truc, aller sur le web, naviguer. Ben non, ça n'intéresse personne, donc les liseuses ne le font même plus. Par contre, il y a un truc qui est bien, c'est que vous ne connaissez pas un mot, vous cliquez dessus, vous avez la définition. Ça, c'est bien. Mais c'est pratiquement, à part ça, je veux dire, il n'y a rien de vraiment nouveau dans le livre numérique. Et c'est facile à fabriquer un livre numérique, c'est-à-dire, j'en discutais avec Emmanuel Gaume, qui est un des grands spécialistes du domaine, qui fait les livres numériques dans un certain nombre de maisons d'édition, vous connaissez bien, le Diable Vauvert et autres. Lui, il dit pour 100 euros, voire même pour 40 euros quand tu passes par la Chine, tu fabriques ton livre numérique. fichier InDesign ou ton fichier Word. Et un fichier Word, si vous avez un fichier Word propre, je vais dire, en donnant les explications, ça prend exactement 10 minutes. Fabriquer avec du numérique pour partir du truc. Oui, c'est, vous imaginez la complexité du truc. C'est vraiment, on est passé dans le monde digital dans les années, au début des années 80, le livre numérique a suivi, comme la musique maintenant n'est pratiquement plus que digital. Je ne connais pas de groupe ou de studio dans mon environnement qui travaille avec des bandes magnétiques analogiques, des Revox comme on faisait à l'époque. Donc, tout est en digital, montré. D'accord ? Donc, le livre aussi, si vous imaginez qu'ils sont composés à l'ordinateur, à un moment donné, ils sont digitales avant d'être imprimés. La seule différence entre un livre digital et un livre numérique, c'est qu'il y en a un qui pèse un certain poids et qui a une odeur de papier. Il faut vraiment démythifier le truc. Il n'y a pas de mystère, il n'y a rien de compliqué. C'est simple. D'accord. C'est simple. Simplement, on n'a pas pris la conscience de la, je dirais, de la révolution que ça représente. Parce que ça veut dire une chose. Ça veut dire aussi qu'un livre numérique, vous allez pouvoir l'essayer. On parlait de l'application qui permet de lire les premiers chapitres de n'importe quel livre. Vous avez ça sur Amazon, vous avez ça sur Apple aussi. Vous pouvez lire le début de n'importe quel livre sans l'acheter. Vous êtes chez vous, vous êtes dans une espèce de librairie immense et vous vous dites, tiens, j'ai un machin à sortir un truc, c'est comment ? J'ai les 10 premières pages, non, ça, je ne le sens pas, ou enfin, je l'achète. Allez, ça, c'est déjà vachement bien. C'est une espèce de phénomène d'honnêteté qui est super. Il y a des boîtes comme Rajlon qui ont mis gratuitement des premiers romans entiers d'une série en disant, on aime beaucoup cette série, à mon avis, quand vous aurez lu le premier, vous serez accro, vous achèterez les autres. Et après, ça marche bien. Ça, c'est une différence énorme. D'autre part, il y a un truc aussi qui est génial, qu'on oublie, c'est que vous avez ce qu'on appelle les métadonnées. Alors là aussi, c'est quelque chose qui bouleverse le monde. Et pas seulement le livre, c'est le monde entier. Ça bouleverse notre réalité, notre vie. Ça veut dire qu'on attache à chaque objet numérique tout un tas d'informations qui sont périphériques, mais qui sont importantes. L'exemple de métadonnées est le prix. Le prix d'un livre, ce n'est pas quelque chose qui est important pour la lecture du livre, ça ne fait pas partie de l'histoire, etc. Mais c'est une métadonnée. L'auteur, c'est une métadonnée. Je ne sais pas le nom de l'illustrateur, c'est une métadonnée. Mais vous pouvez aussi avoir une métadonnée qui dit c'est un livre qui est un thriller, c'est un livre qui se passe à Bangkok, c'est un livre où il y a de la plongée sous-marine, d'accord ? Et du coup, vous, l'individu qui vous connectez sur Amazon ou sur un autre, qui avez acheté un bouquin sur la plongée sous-marine et un livre sur un guide de Bangkok parce que vous avez prévu un voyage dans 2 mois, ben vous allez avoir Amazon qui va vous dire, tu sais qu'il y a un super thriller qui se passe à Bangkok et dans lequel il y a de la plongée sous-marine, c'est celui-là. Et il y a des chances que ça vous intéresse plus qu'un livre sur le macramé. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce travail-là de diffusion, de progression, de transfert d'informations, c'est en train de nous arriver dans la figure et, ça, et le livre, ce n'est qu'un des exemples de notre vie dans lequel ce genre de choses arrive. Bientôt, vous allez rentrer dans les magasins et vous allez avoir les présentoirs eux-mêmes qui vont vous dire « Eh, j'ai un truc pour toi !» Et en plus, ça tira bien.
Oui, mais alors finalement, effectivement, le traitement des métadonnées, c'est quelque chose qui est très très utilisé par les entreprises en ce moment. On est à l'aube de quelque chose. On est dedans, c'est pas encore complètement généralisé, mais ça va de plus en plus. Mais alors, ça présente un inconvénient que ça risque de maintenir l'individu dans une sphère de choses auxquelles il est habitué. On le voit sur Facebook. Hein. Facebook qui finalement traite.
Ça s'appelle la matrice attendue.
Voilà.
Vous êtes entouré par le monde qui s'intéresse à vous et qui essaie de vous donner le plus possible des choses qui vont vous faire plaisir. D'accord ? La matrice attentive. Ça part d'un très bon sentiment. Et il y a de fortes chances que ça soit extrêmement bien. Le seul inconvénient, c'est que ça vous prive des rencontres que vous n'auriez jamais faites. Parce qu'a priori, vous allez vous dire, non, moi, j'aime pas le poisson, j'aime pas le truc, etc. Donc, le restaurant japonais, ça ne marche pas. Puis un jour, vous allez aller dans un bon restaurant japonais parce que quelqu'un vous aura traîné et vous dira, putain, mais goûte ça. Vous allez goûter, vous allez dire, putain, mais c'est génial, les sushis. Et donc, ça, la matrice attentive va presque vous en empêcher en disant, c'est pas là que tu vas trouver un truc intéressant, d'accord ? Mais la vie, c'est aussi faire ce genre de rencontre. Mais on peut très bien s'éclater en n'en faisant pas.
Oui, mais voilà, ça peut effectivement, mais c'est un peu dommage. C'est pour ça qu'il faudrait trouver le moyen que Amazon, de temps en temps, propose autre chose. Si Amazon ne me donne que des choses sur la plongée et Bangkok, peut-être que je ne découvrirai jamais quelque chose d'exceptionnel sur le macramé, c'est un peu dommage. Alors, c'est vrai que c'est très utile, mais il faut voir après comment c'est utilisé et comment ça peut se cadrer et comment on peut arriver à en sortir, peut-être modéliser dans des choses tirées au sort dans les métadonnées qui, de temps en temps, proposent autre chose. Ben,
tout ce problème-là, c'est ce à quoi on se heurte énormément au jeu vidéo, puisque le jeu vidéo est pour une très très grande part du marché maintenant en diffusion dématérialisée, à travers un acteur unique, quasiment, ce qui est un problème, c'est une question. Ça pose le problème de ce qu'on appelle la curation. Et donc Steam, qui est, ce qui est intéressant, c'est très intéressant de s'intéresser au marché du jeu vidéo et de ce qui s'y fait. Parce qu'en fait, quand on, du coup, moi j'ai un peu un pied dans les deux mondes, et en fait, quand on regarde ce qui se passe dans le jeu vidéo, on a l'impression d'être, de voir en fait le marché littéraire, ou peut-être ce que ça peut devenir. C'est presque un bond dans le temps, 5 à 10 ans dans le futur, de voir ce qui est en train de se faire. Et donc le marché du jeu vidéo s'est déjà heurté à ce problème-là, et notamment Steam à travers ce qui est la recommandation de contenu. Et ça, c'est donc le problème, ce qu'ils appellent le problème de la curation, qui est une notion qui dépasse largement le domaine du jeu vidéo. C'est donc la curation de contenu, c'est trier du contenu qui peut être potentiellement intéressant, mais également aller au-delà de la recommandation du semblable et éventuellement proposer des promenades autres. Et le jeu vidéo, on réfléchit beaucoup à ça. Et alors, je ne sais pas si ce serait un modèle qui soit potentiellement applicable, mais ce que Steam essaie de faire en ce moment, qui peut être une inspiration éventuellement à voir, c'est d'avoir des curateurs de contenu, donc des journalistes, des critiques, etc., qui proposent une liste ou une forme de contenu qui s'adapte aussi en fonction de vos goûts, mais en disant tu aimes tel truc, il y a peut-être un voisinage d'esprit avec tel autre type d'œuvre, mais qui va hors de ta zone de confort et pas très intéressant. Peut-être y aura-t-il, je ne sais rien, là j'y pense, je réfléchis un peu comme je parle, peut-être y aura-t-il quelque chose avec des critiques, peut-être est-ce, j'en sais rien, une forme d'avenir de la critique littéraire aussi, qui est, je ne sais pas, tel essayiste, tel critique reconnu du domaine de la science-fiction fantasy vous recommande. ActuSF le fait un peu, où il y a Anne Besson, je crois, et Jean-Luc Rivera, qui donnent leur coup de cœur mois par mois, en prenant les grandes sorties et en gardant ce qu'ils recommandent. Donc, on suit, voilà, peut-être qu'il y a, peut-être c'est une nouvelle façon dont la critique peut redevenir prescriptrice, un rôle qu'elle a peut-être un petit peu perdu en les dernières années.
Mais je vais être brutal, hein. Si vous sentez aventurier un matin, on peut effectivement vous conseiller des livres qui vont vous sortir de votre zone de confort, mais 90% des gens ne se sentent pas aventuriers 90% du temps. C'est-à-dire qu'ils veulent, comme les Américains, more of the same, c'est-à-dire plus de choses qui ressemblent à ce que l'on déjà.
What difference?
Je peux vous donner un exemple qui est quand même très classique, la romance. La romance est un phénomène qui est vraiment très très important en ce moment en littérature. Et les gens qui sont accros à la romance veulent de la romance, ils veulent leur type de romance. Et c'est la raison pour laquelle on ça s'est engouffré aussi bien dans les 51 degrés, qui est une espèce de version totalement extrême, et par ailleurs, mais aussi dans tout un tas de genres de romances dans lesquels on dit ah oui, ça va, et on crée carrément le pool d'auteurs qui fabriquent ce genre de trucs pour alimenter la machine. Parce que les gens veulent en lire un tous les 8 jours, tous les 15 jours. Quoi. Et ils ne vont pas se dire tiens, je vais me lancer dans la science-fiction. Je veux dire, le mieux qu'ils arriveront à faire, c'est de dire tiens, je veux une romance un peu plus épicée que d'habitude ou un peu plus historique que d'habitude. Et on restera dans le cadre. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on vous dit. Ce sont les analyses qu'on fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'on empêche les gens de le faire. Le principe de la matrice attentive, c'est qu'elle ne vous empêche jamais de faire quoi que ce soit. Sauf si ça peut se révéler très, très dangereux, mais ça n'arrive jamais dans la vraie vie. Par contre, on vous conseille les bons livres, ceux dans lesquels vous n'avez pas d'effort à faire, et dans lesquels vous allez vous sentir bien et qui vous correspondent. Et le piège, si le piège il y a, pour moi, il n'y en a pas, mais pour un certain nombre de gens, il y en a. Le piège, c'est justement de ne pas sortir de sa zone de confort. Mais en même temps, posez-vous la question, passer sa vie dans sa zone de confort, est-ce que c'est désagréable? Mais pas nécessairement.
Et alors, moi, justement, je regarde toujours un peu le fait de ne pas sortir de la zone de confort, parce que derrière ça, il y a simplement, ça c'est purement chauvin, mais juste forcément, bien sûr, j'aimerais que les littératures d'imaginaire contiennent le monde. Mais peut-être, alors le côté positif de ça, moi ce à quoi j'aimerais croire, parce que je suis un idéaliste quand même, c'est que cela permette à davantage de niches, à davantage de genres de vivre, et de vivre bien, et notamment pour les créateurs, de vivre bien, rassemblés autour d'une mouvance. C'est quelque chose qu'on voit depuis 20, 25 ans aussi. C'est peut-être un éclatement des genres et des courants, mais qui se sont reformés. On a vu ça en musique, c'est un peu en littérature aussi, autour d'un public fidèle, autour d'une niche. Tout ce que je demande, c'est que cette niche-là permette à tout le monde de vivre confortablement en quelque part.
Alors, je voulais aborder un autre aspect de la question. Le livre numérique, qu'est-ce que ça va changer et qu'est-ce que ça a déjà changé dans la chaîne du livre? Puisqu'on sait que le livre, donc évidemment, il est écrit, puis ensuite on le fabrique, donc on peut le fabriquer soit sur un support papier, soit sur un support numérique, mais jusqu'à présent, le support papier, on avait des diffuseurs, des libraires, au niveau du numérique, comment ça se passe, comment est-ce que ça change et quelles sont les évolutions futures envisageables?
Écoute, on parle de ça dans l'atelier d'écriture avec Lionel, hein, il me corrigera si je te bêtise, mais bon, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'un livre imprimé, ça devient un objet qui rentre dans le même genre de chaîne logistique qu'une boîte de petits pois, ou que n'importe quoi d'autre, ou qu'un surgelé, enfin encore quoi, surgelé, vous avez compris, spécial. Mais donc, ça devient un objet. C'est un objet qui a un poids, qui a un volume, qui a une valeur, et qui a une valeur par mètre cube, enfin, vous savez, ce genre de choses qu'on traite en logistique. Quoi. Et à ce titre-là, ben, il est imprimé, effectivement, il est imprimé à un endroit, il y a les camions qui vont le chercher, le mettre dans des stocks, vous avez des gens qui vont les amener dans des librairies, vous avez des gens qui font le tour des librairies avant pour essayer de les convaincre comment commander. Vous avez toute une chaîne logistique, mais qui est une chaîne, hein, encore une fois, ça marche comme pour les petits pois, hein, il ne faut pas se poser de questions, c'est un problème. Bon. Le livre numérique, l'avantage du numérique, c'est que vous le fabriquez une fois, le livre numérique, il se copie instantanément et il diffuse extrêmement bien via les réseaux. Donc, le libraire numérique qui s'appelle Amazon, Apple, etc., Kobo, enfin Fnac, ce que vous voulez, il est à un bout de chaîne d'Internet. Vous avez le fabricant de l'objet numérique à un autre bout de la chaîne, et puis c'est en quelques secondes, vous avez le truc qui va de l'un à l'autre, il n'y a pas de stock. Il faut imaginer qu'Amazon stocke une, enfin pas une copie, mais une copie par groupe de serveurs de chaque livre, ce qui ne représente rien. Moi j'ai dans ma poche une clé USB dans laquelle j'ai mes 18 000 bouquins numériques. D'accord ? C'est comme ça, ouais, ça fait 2 cm cubes. Bon. C'est ça la réalité. Si j'essayais de faire la même avec un truc, ça prendrait la moitié de la salle. Vous voyez ? C'est ça la différence. Mais après, le gros problème, c'est que, donc, il y a des gens qui disparaissent, l'imprimeur disparaît, le stockeur avec ses camions et ses trucs disparaît, le distributeur, d'une certaine façon, ça devient un autre rôle, le libraire, ça devient un autre rôle, et l'argent, donc, qui n'est pas dépensé là, normalement, devrait aller à réduire le prix du livre numérique et devrait entraîner un partage différent des droits entre l'auteur, l'éditeur et le distributeur. Actuellement, on semble converger vers un tiers en gros, c'est-à-dire 30% pour Amazon, 35% pour l'auteur, 35% pour l'éditeur, ou 30-35-35, ou 40-40. Bon, on est dans ces eaux-là. Bon. Ça se produit chez un certain nombre d'éditeurs. Chez d'autres éditeurs, on est toujours en train de se battre. Le numérique est en train de nous détruire. D'abord, ça coûte très cher. J'ai entendu M. Gallimard, il y a 2 ans de ça, à la Commission européenne, expliquer que le numérique coûtait très cher, que c'était vraiment un truc invraisemblable, le prix que ça pouvait coûter. Bon, je lui en ai fabriqué un sous le nez pour 20 minutes à peu près, à partir d'un document de la Commission européenne, elle n'avait pas aimé. Mais je lui ai dit, vous savez, les Chinois vous font ça à 40 euros par bouquin. Je lui ai dit, donc, excusez-moi, si M. Gallimard, si vous en êtes à 40 euros, c'est qu'il y a un vrai problème, je revends mes actions. Quoi. Et on en est là, quoi. Mais vous avez des gens qui vous disent, ça mérite un mensonge, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la chaîne du livre, ceux qui gagnent de l'argent sont les distributeurs. C'est eux qui touchent l'argent, c'est eux que les libraires payent. D'accord ? Donc, une société comme Gallimard, en fait, les éditions Gallimard touchent peu, la distribution Gallimard touche beaucoup, et reverse à Gallimard. Vous faites disparaître les gens du milieu, vous faites disparaître des emplois, des camions, des stocks, des tout un tas de trucs, et la source de revenus principale. Donc, ils ne sont pas nécessairement pour, hein, faut pas se faire des yeux. En même temps, dans des pays comme le Canada, par exemple, la liseuse est partout. Pourquoi est-ce qu'en France on résiste? Parce que vous avez des librairies à tous les coins de rue. Dans la ville de Toulouse, ville universitaire, il y a plus de librairies qu'à New York. Il y a plus de librairies qu'à Montréal. Il y a plus de librairies qu'à Los Angeles. Beaucoup plus. Vous regardez l'annuaire des pages jeunes, et c'est invraisemblable. À Los Angeles ou même à Montréal, pour trouver une librairie, vous avez vraiment intérêt à prendre le métro. Hein. Parce que ça va être une dizaine de stations par rapport à l'endroit où vous trouvez. Alors qu'en France, dans une ville un peu convenable, vous avez toujours une au moins de la rue. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, sincèrement, hein, je crois qu'il y a plus de librairies en France que dans tous les États-Unis. Enfin, tout le monde. Donc, nous, on a cette chance-là. Mais quand vous êtes au Canada et que la plus proche librairie physique, pour acheter un livre physique, elle est à des dizaines et des dizaines de kilomètres, où la seule chance que vous avez, c'est de vous faire livrer par Amazon, vous passez au livre numérique, parce qu'à ce moment-là, la livraison est immédiate. Et vous faites des économies très rapidement. Donc, quand vous allez au Canada, vous voyez plein de gens avec des liseuses. C'est bon, parce qu'on a mal acheté des bouquins. Donc, chez eux, ça y est, la révolution est déjà passée, quoi. Le livre numérique, c'est devenu quelque chose qui tend vers la majorité. Mais c'est bêtement de la logistique. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. C'est le même texte, c'est le même livre. Vous avez le même plaisir de lecture. Vous n'avez pas l'odeur du papier et vous n'avez pas le plaisir de mettre en marque-page. Mais ce détail mis à part, vous avez, pour les gens qui lisent, ben, ça marche pas.
ça change aussi un petit peu le modèle.
Il y a un truc qui fout tout le système en l'air, si je puis dire. Il y a deux choses qui mettent tout le système en l'air. D'abord, c'est le fait qu'en numérique, la copie est identique à l'original. C'est-à-dire que vraiment, c'est le même. Donc, vous avez emprunté un livre à la bibliothèque, vous le rendez à la bibliothèque, en même temps, vous le gardez. Vous voyez ce que je veux dire, c'est le truc. Ou alors, il faut vous engager à l'effacer sur votre truc. Ça ne marche pas, première chose. Deuxième chose, à partir du moment où n'importe qui peut fabriquer son livre numérique, comme j'ai expliqué à partir de ce fichier Word, vous avez des auteurs autoproduits, auto-édités, qui s'autorélisent leurs livres, qui correspondent maintenant à peu près à 30 à 40 fois plus que les auteurs, entre guillemets, édités par la filière habituelle aux États-Unis. Je crois qu'il y a 30 fois plus d'auteurs auto-édités aux États-Unis que d'auteurs comme ça. Vous imaginez, tout le monde ressort de son tiroir des trucs comme ça. Donc, le problème que vous avez à un moment donné, c'est qu'est-ce que choisir ? Le gros souci qu'on a actuellement, c'est que nous sommes dans une politique qu'on appelle l'hyperabondance, qui est quelque chose qui n'a jamais été étudié d'un point de vue économique, parce que ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les gens se sont réveillés dans un jardin dans lequel il était littéralement entouré d'arbres remplis de fruits. Il y avait des machins avec qui on fabriquait des tours, des trucs et de la bière partout. Enfin, je veux dire, ça n'existait pas, ça. Vous voyez, le genre de truc où vous êtes limité par votre faim et pas par l'abondance des choses. Là, je sais qu'il ne m'est pas possible de lire, ne serait-ce que d'effleurer et grosser, rayer la surface de la quantité des livres à lire qui se produisent chaque année. Jusqu'à ma mort, j'ai de quoi dans ma poche lire. D'accord ? C'est une situation différente. Ça ne s'est jamais produit dans la vie réelle. À partir de là, la seule valeur, la seule monnaie qui compte, ce n'est pas l'argent que ça coûte, c'est le temps dont on dispose. Et le temps dont on dispose, il est en compétition avec les séries télé, les jeux vidéo, les films, les promenades en forêt, son papa, sa maman, enfin, je veux dire, son boulot. Donc, le temps, il est comme ça. Or, on parle de produire de plus en plus de livres. Lionel parle de disant j'aimerais bien que tout le monde arrive à en vivre même avec des niches. Et bien le problème c'est que en mettant toute l'humanité en la forçant à lire ne serait-ce que 2 heures par jour, on n'arrive déjà pas à payer les écrivains qui sont dedans. D'accord ? On a des maisons qui achètent les livres et tout ça. Tout simplement, ça n'a pas le temps. Donc on est dans une situation dans laquelle on va continuer à produire énormément de choses, et les bibliothèques vont stocker énormément de choses, mais on aura gratuitement énormément de choses, parce qu'en plus c'est gratuit. Que ce soit pirate ou que ce soit via les bibliothèques ou via tout un tas de choses, eh bien, parce que n'oubliez pas aussi que les livres gratuits légaux, il y en a plein. C'est pas les livres récents, c'est pas nécessairement ce que vous avez envie de lire, mais je veux dire, tout le 19e siècle, tout le début du 20e siècle, pratiquement, il est disponible gratuit. Moi, j'ai acheté l'intégrale de Shakespeare, je crois que je l'ai payé 1,70€, un truc comme ça, tout Shakespeare, avec un truc mis à point, avec une traduction de son travail, tout ça, 1,70€. Et vous avez, je ne sais pas, je suis fan de Dumas, tout Dumas est en numérique, gratuit. Mais bon, on peut. Donc, à un moment donné, on est dans une situation dans laquelle le système s'effondre sous sa propre richesse. Et c'est une situation très curieuse.
Ouais, toute cette problématique de la dématérialisation touche évidemment le livre, touche à peu près à tous les secteurs. Et c'est rigolo parce qu'il y a 5 ou 6 ou 7 ans, j'avais posé sur mon blog un article qui s'appelait Comment la globalisation, la diffusion fait le livre des publicitaires. Je m'étais fait tirer dessus par le monde entier, à peu près. Parce que j'osais. Pas trop long. Jean-Claude m'avait soutenu, et je vous en remercie. Parce que j'osais aller contre le canon en disant ah, la diffusion libre, c'est absolument formidable, tout le monde va mettre son bouquin dessus. Et j'avais dit oui, c'est vrai, formidable. Ça permet à des tas d'auteurs qui veulent se faire éditer, justement, ils peuvent mettre leur bouquin, ils ont. Auto-édité, sauf que quand on est sur Internet depuis un certain temps, on sait que sur Internet, personne ne vous entend crier. Et que la problématique qui se pose quand vous avez une info pléthorique, qui va surnager pour arriver jusqu'à vous, pour que vous ayez ne serait-ce que connaissance de leur existence. On ne parle même pas de vous dire, ça va m'intéresser, je vais acheter le bouquin. C'est celui qui aura la plus grande agence de presse. De qui vous entendez parler, de qui, c'est un problème qu'on affronte en littérature d'imaginaire, il y a toute une réflexion qui parle un peu de ça en ce moment, de qui on entend parler dans les bouquins, de qui vous voyez les pubs à la télé, vous entendez les pubs à la radio, ce sont les bouquins de très grande diffusion. Je ne mets absolument pas d'étiquette de qualité ni rien, mais ce sont les choses qui sont susceptibles de plaire au plus grand nombre et sur lesquelles on va investir des efforts marketing. Et moi, ce que je crains énormément, et c'est une question aussi qu'on voit dans le jeu, encore une fois, parce que c'est intéressant, on se projette de 5 et d'ailleurs, Hollywood est en train de s'en rendre compte que ça mêle un peu, ils investissent énormément, donc il faut que ça mêle au plus grand nombre, et donc finalement, ça finit par renverser personne. La fonction de l'art, c'est quand même un peu de renverser quelque part, c'est peut-être un petit peu de vous, justement, sortir de la zone de confort, vous faire penser, donc faire un peu réfléchir des trucs, peut-être pas tous les jours, parce que ça peut être un peu fatigant à la longue, mais un peu une fois de temps en temps. Donc là-dedans, où va être la prise de risque ? Le créateur, parce que former un créateur, qu'un créateur se forme, quelle que soit l'écriture, l'art, l'écriture, etc., qu'un artiste, un créateur, affine son métier, le travail, et finisse par arriver à une forme de maturité qui va lui permettre de trouver peut-être une forme d'équilibre entre l'audace et l'accessibilité, le plus grand public, ça prend du temps. Ça prend une forme de maturation. L'adage dit qu'il faut 10 000 heures pour maîtriser. Je pense que c'est vrai, mais bon. C'est juste beaucoup de temps pour maîtriser un domaine et arriver à le faire correctement. Si ce créateur, au bout d'un moment, même s'il œuvre pour l'amour de l'art et pour la passion, si au bout d'un moment il finit par vendre 10 exemplaires de chacun de ses bouquins parce que sur Internet personne ne vous entend crier, au bout d'un moment il peut y avoir une forme de lassitude. Moi ce qui m'inquiète, c'est combien de créateurs n'auront pas la place et l'espace de mûrir pour atteindre cette maturité-là et finalement arriver à dire ce qui est nécessaire. Combien d'entre eux aussi vont réussir à dégager un revenu ou pas. Le phénomène de l'auto-édition est intéressant et en même temps, à mon sens, présente des dangers. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, en fait, derrière l'idée de l'auto-édition, par la littérature, ça, pour la musique, etc., il y avait toute une idée que ça venait à la longue traîne. C'est-à-dire que la longue traîne, c'est une idée qui vient aux États-Unis, qui disait, bon, alors, il y a effectivement peut-être 20% du marché, les très grands noms, ceux dont vous entendez parler à la télé, à la radio, qui vont capter peut-être 80% des revenus. Mais avec
90%.
J'ai
une interview par exemple qui est un des grands producteurs américains qui me dit tu as le top 100 américain, les 10 premiers du top 100 gagnent plein d'argent, les 10 à 25 du top 100 gagnent leur vie, les restes ne gagnent rien. D'accord, vous êtes dans le top 100, vous êtes 90e, vous allez vous gagner 2 mois de salaire. Mais vous êtes en top 100.
L'espoir de la longue traîne que théorisaient les Américains il y a 10 ans à peu près, c'est que dans cette courbe, dans vraiment le bout de la courbe, il y avait peut-être là suffisamment justement de générer ces niches-là qui permettraient à des inconnus totaux, mais peut-être à des inconnus d'arriver à vivre suffisamment de leur art. Et on est arrivé à la conclusion, et c'est pas tellement moi qui dis, c'est très très nord de David Hitchens qui a beaucoup travaillé sur la production de l'autre, arrive quand même à la conclusion que la longue traîne, ça ne fonctionne pas en fait.
C'est pas vrai, on croyait que ça allait marcher, on était vraiment contents, on s'est dit, on a fait confiance à la curiosité, à l'ouverture d'esprit, des lecteurs en général, et ben non, désolé.
Et en fait, je vais vous dire, moi qui ça marche pour Amazon. Parce que Amazon se fiche royalement que vous, auteurs indépendants, auto-édités, vous vendiez 1000 exemplaires de votre bouquin. Pour eux que une personne vend 1000 exemplaires ou que 1000 personnes en vendent un seul, c'est exactement la même chose pour vous. Donc, Amazon tient un discours qui pour moi est à la limite de malhonnête en disant ah, venez chez nous, regardez, vous avez touché 70% de vos droits d'auteur. Sauf que 70% de rien, ça fait toujours rien. Et c'est pour ça, et moi ça me fait beaucoup de peine parce qu'on commence à avoir de plus en plus d'auteurs auto-édités qui regrettent leur choix. Et qui se trouvent malheureux parce qu'ils se disent bah, c'est super, j'ai vendu mon livre électronique, Amazon m'a dit que j'ai touché 70%, j'en ai vendu 15 parce que j'ai beaucoup d'amis et de famille. Et ça pose un vrai problème de société, vraiment pour moi, sur qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les jeunes créateurs, qu'est-ce qu'on fait pour leur donner les chances de faire leur premier art, parce qu'un auteur aussi, ça s'accompagne, ça se forme, un auteur ça peut mûrir, un auteur, je dis un créateur au sens large. Où est-ce qu'on trouve la place pour ça? Comment est-ce qu'on accompagne ces nouveaux auteurs? Et comment est-ce qu'on va trouver l'énergie et les moyens financiers, paradoxalement, de miser du budget marketing sur eux, simplement pour qu'ils puissent surnager ça et la même société?
Et vous savez qu'il y a, du coup, ça vous renvoie à vous, les lecteurs, et à moi-même, ça vous renvoie une fonction marketing, a priori, bien n'était pas censé utiliser. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 20 ans de ça, par exemple, vous ne postiez pas le moindre avis sur vos livres, à moins d'avoir un fanzine à vous, etc., et d'être vraiment dans la franche super motivée, mais maintenant on demande à n'importe quel individu qui a acheté n'importe quoi sur Amazon ou autre de noter. Et nous, auteurs, je peux vous dire que quelquefois on a des gens qui nous font des super critiques dans le blog, dans un plus, ils avaient fait copier-coller de leur machin sur Amazon ou sur la Fnac. Si vous, vous aimez vraiment un auteur, si vous avez envie de le soutenir, on le dit, allez sur ces sites-là, mettez 4 à 5 lignes en disant j'ai bien aimé pour ça. Ça marche mieux, c'est beaucoup plus utile pour eux que simplement de dire oui, ça me plaît. Alors vous avez des trucs genre Babelio, Booknode, etc. Vous pouvez faire ça aussi. Dans certains cas, vous avez des liens avec d'autres choses. Mais croyez-moi, c'est au niveau du vendeur. C'est un petit peu comme si vous étiez en permanence dans la librairie en train de dire tu sais, ce bouquin-là qui est sur la table, il est vachement bien. Ça finit par marcher quand même. Je ne sais pas si vous allez dans la librairie, moi je vais dans une librairie spécialisée. Les gars autour de moi qui disent ah ouais, j'ai lu ça, putain, qu'est-ce que c'était bien là qui dit ouais, t'as raison, tu l'as passé, c'est génial. Je commence à acheter un peu d'argent, tiens, voyons ce que c'est. Ça, ouais, ça n'est pas mal. D'accord ? Ça, c'est le phénomène qui va bien. Et on vous demande à vous de noter, de cocher. On vous demande d'être la structure marketing du monde. Et non pas pour, je dirais, parce que les éditions vous demandent de faire quelque chose pour eux. On vous dit, parlez-nous de vous. Parce qu'encore une fois, comme dit Lionel, Amazon s'en fout. Amazon se fout de me vendre moi, de vendre Lionel ou de vendre Stephen King. Ils donnent le même argent. Bon, ça n'intéresse pas d'avoir nécessairement 10 auteurs qui vendent 1 million. On préfère avoir 1 million d'auteurs qui vendent 10. Mais c'est même plus intéressant pour eux d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, votre travail de noter, de faire des trucs, etc., devient fondamental. Or, c'est une perversion de l'esprit. C'est une perversion de l'esprit parce qu'a priori, vous n'avez pas nécessairement envie de faire ça, vous n'avez pas nécessairement le temps de faire ça. Donc, on vous demande, on vous oblige, on vous suggère, on vous recommande, vous recevez, je ne sais pas vous, mais moi je reçois des tas de mails, vous avez acheté tel truc, vous en pensez quoi, acceptez-vous de participer à notre truc, ça prendra pas plus de 2 minutes sans service à tout le monde. Ben oui, mais bon, je ne vais pas passer ma vie à ça aussi. Et c'est perturbant de se dire que, voilà, vous êtes les garants du fait qu'on va pouvoir ou non surnager dans cette espèce d'océan gigantesque de texte.
Juste, et l'autre, et ça fonctionne aussi à l'envers du décor, c'est-à-dire que, alors ça, c'est pas encore tellement arrivé en France, mais aux États-Unis, depuis 5, peut-être même presque 10 ans, il est fortement recommandé, en tout cas, ça fait partie des choses que les éditeurs apprécient énormément, et ça peut clairement constituer un plus, c'est d'avoir ce qu'ils appellent une plateforme, c'est-à-dire avez-vous une présence, avez-vous un blog, avez-vous un Twitter, avez-vous un Facebook, postez-vous régulièrement dessus, faites-vous quelque chose autour de ça. Et il faut quand même se rendre compte que ça s'apporte un nom, ça c'est un métier, ça s'appelle community manager. Et ça n'a rien à voir avec le métier d'auteur. Alors, il se trouve qu'on est plusieurs dans le milieu de la SF à le faire. Moi, je le fais parce que je suis un geek et que donc ça me va et je le fais naturellement parce que ça m'amuse. Mais je me mets à la place d'un auteur. Il y en a quand même un certain nombre qui, quand même, on fait des éditions, on écrit des bouquins, qu'on n'est pas des rockstars, c'est parce qu'on est plutôt des gens introvertis, globalement, voilà. Pas forcément non plus. Et on n'a pas le temps.
Jamais si j'allais poster des photos nues, je veux dire, il faudrait que je maigrisse, ça serait un travail absolument raisonnable. C'est pas mon métier, je n'y arriverai pas, c'est pas possible.
J'imagine ça fait pour dénoncer, c'est extrêmement juste un aparté, mais j'imagine ça avait fait avec quelques camarades, genre John Scalzi, etc., pour dénoncer les postures ridicules des femmes en couverture sur les couvertures de gens, vous avez posté en sous-vêtements avec des poses exactement qui allaient avec, pour montrer à quel point c'était grotesque. Mais voilà, donc on n'a pas forcément l'inclination pour un très bon auteur. On n'a pas forcément l'inclination ni la sensibilité technique pour ça. Et là aussi, ça pose une question, au-delà de la création, ça pose une question de société. Et il y a d'autres problèmes qui posent la dématérialisation. On pourrait parler aussi de la question du prix. Très rapidement sur la question du prix, parce que c'est vraiment quelque chose qui se pose là aussi de manière extrêmement prégnante. Je reviens toujours aux jeux vidéo parce que c'est vraiment fascinant. Je vois un certain nombre de tendances qui sont à peu près implantées dans le domaine de la littérature depuis mettons 2 ans, genre le crowdfunding, le financement participatif, pardon, et les lots et les soldes sur les livres électroniques. Ce sont deux tendances qui, dont on se rend compte qu'elles ont eu des effets dont on n'est pas hyper méga content dans le jeu vidéo 5 ans plus tard, 5 à 10 ans plus tard. Mais sans entrer dans ce détail-là, on pourrait aller bon, sur le mode. Se pose la question très, c'est pareil encore une fois pour toute dématérialisation, à quel prix je donne à mon livre numérique, et surtout, c'est le débat et toute la difficulté, c'est comment puis-je faire comprendre, au-delà même des problématiques de piratage qui sont aussi un problème, mais bon, si on laisse ça de côté pour l'instant, le simple fait de l'offre légale, comment puis-je faire comprendre à Ah, mais c'est un vrai défi qu'on a, et on a énormément de problèmes là-dessus. Comment puis-je faire comprendre à un lecteur numérique que un livre numérique se paye et que tout le travail qui va derrière l'offre d'un livre numérique n'est pas la fabrication, en fait. Il y a le travail de l'auteur, le travail de l'éditeur, le travail de la com, le travail de la diffusion, le libraire qui prend son libraire virtuel, certes, mais qui prend aussi son écho, parce qu'il offre ça dans un écosystème, Amazon, Apple, ou même des libraires indépendants comme ça, comme Switch, Matériel, etc. Faire comprendre au lecteur que, ben oui, un livre numérique, on sort, dans sa sortie, par exemple, moi, mon gros machin, qui fait 1 200 000 signes, c'est-à-dire 500 pages en papier, ben, il coûte 25 € en version papier, il coûte 14,99 € en numérique. C'est une nouveauté et ça n'est pas un tarif déraisonnable. Sauf que le problème, il y a, on a un véritable défi d'arriver à faire comprendre au lecteur que, ben, oui, effectivement, il y a des bouquins gratuits parce qu'ils sont tombés dans le domaine public, et oui, de temps en temps, il y a des offres numériques avec des soldes à 1,99 € ou 0,99 €. Mais le gros du travail derrière, il est pour rémunérer les gens qui, en fait, travaillent sur quelque chose qui, paradoxalement, est immatériel, c'est-à-dire le texte et sa qualité. Et c'est très difficile d'arriver à faire comprendre que ben, ce type de tarif électronique pour une nouveauté n'est pas abusif, en fait. Au contraire. Et parce qu'il faut que tout le monde ait sa vie, l'éditeur, l'auteur, etc. Et c'est assez difficile. Donc, arriver à faire passer cette idée-là, en fait, au grand public.
Alors, ben, je pense que ça va un petit peu nous servir de conclusion, puisque le temps qui nous était imparti arrive à son terme et qu'il y a des gens qui sont sur d'autres débats tout de suite derrière. Donc, on
espère. Oui, la vie d'auteur, nous sommes dans le débat alors.
Voilà. Donc, on espère en tout cas que ça a pu vous éclairer un petit peu sur ces questionnements-là. Voilà. Est-ce que éventuellement quelqu'un a une question ?
C'est immortalisé pour HUSF, donc d'accord.
Juste pour rebondir sur la question du prix, une chose que moi par exemple me touche, mais qui est concernée à d'autres personnes, c'est que le livre papier, le livre numérique, c'est quelque chose qu'on pourrait vendre ensemble aussi. C'est quelque chose qui est très freiné.
Oui.
Et quand tu dis par exemple, mon livre, il vaut 25 € et la version numérique, il y a aussi un travail et tout, la version numérique en plus du livre, ce serait un petit surplus, une petite différence.
Je suis mille fois d'accord avec ça, surtout que ça a, pour ainsi dire, sauvé l'industrie du jeu de rôle aux États-Unis, où, c'est-à-dire où fréquemment des offres couplées, ou même genre pour 2 € de plus, même, vous avez le bouquin et le papier, et on vous donne la version numérique avec. Jean-Claude pourra probablement mieux répondre que ça, je crois qu'on est bloqué par les lois en France là-dessus. Il y a là aussi une réflexion qu'il faudrait réussir à avancer, et aussi comment faire pour que, je ne sais pas, c'est difficile de mettre un QR code dans les librairies parce que sur le bouquin unique, parce que si vous ne regardez pas, vous sentez le truc, il faut flasher le code, et puis voilà. Il y a peut-être une question technique qu'on n'a pas encore vraiment résolue, mais oui, complètement, c'est un truc qu'il faudrait qu'on réussisse à faire de manière légale, et il y a une réflexion qu'on devrait peut-être activer là-dessus. Je suis une fois d'accord.
Une autre question ?
Une toute dernière ? Bon, bah, écoutez, merci en tout cas.
Merci à vous, et puis...
On espère avoir montré que ben, on ne s'est pas gagné et qu'on se prépare des moments intéressants, comme disait